RMC, entre les poteaux,
Wilfried Templier.
Salut à toutes et à tous, les voici de retour. Un an déjà après avoir balayé les All Blacks et à moins d'un an de la Coupe du Monde en France, les Bleus, version premium, reprennent le chemin du boulot. Australie, Afrique du Sud et Japon, on vous rabâche ce programme, vous le connaissez par cœur. Mais maintenant, on va se pencher sur le contenu. Qu'attendre du jeu des Bleus? Que doit-on améliorer? Avec quel leader? Y a-t-il vraiment un enjeu dans la compo où les Olivon, Ramos, Moefana peuvent-ils encore se faire une place au soleil? On vous parlera de l'Australie, grande nation du rugby, mais question, est-elle toujours une grande équipe emmenée par un homme bien connu en France, un homme et demi même, Will Skelton, qu'on a rencontré. Allez, aujourd'hui on passe en mode tournée, on espère d'ailleurs, la tournée du patron, généralement il s'échappe pas quand faut passer à la caisse, et c'est l'esprit babasse évidemment. Bonjour Denis Charvet.
Bonjour messieurs.
Impatient de retrouver les Bleus, Denis?
Oui, et puis là, il va falloir répondre à toutes les questions. Moi, je suis pas entraîneur. Ça aurait été bien d'avoir Fabien Galthié entre les poteaux.
Mais tu n'es pas consultant vedette quand même, attention.
Ouais, on va essayer de...
on va y réfléchir entre
on va y réfléchir.
Avec toi aujourd'hui, le pilier bordelais, le Tamei Funa de RMC, de plus en plus solide sur les appuis. Oui. C'est Nicolas Paul Orsi. Bonjour Nicolas.
Salut les gars. Tu sais me flatter. Moi, j'aurais plus dit le Thomas Ramos. Tu sais, le mec qui est dans le groupe, mais voilà, on le fait pas trop jouer.
T'as plus les yeux plissés de Tamei Funa.
Ouais, c'est pas faux.
T'as 100 kilos de moins, mais bon.
Ouais, je pense.
Ouais, 60.
Du coup, il a peur à côté. Côté du middle, il se dit comment je vais être accueilli. Pierre-Laurent Gou qui est avec nous aujourd'hui. Salut Pierre-Laurent. Je ne veux pas te faire le coup de Tamei Funa, t'es plutôt fit, toi.
Non, je suis le suppléant du suppléant, moi. Je suis Max Spring à ce moment-là.
sur le poste derrière. Ça joue sur les appuis quand même, hein, Max Spring. Hein. Bon, messieurs, vous êtes prêts? En novembre, à la faveur de l'automne, nous revient une douce mélodie. Interception de Damien Penaud, l'essai de l'équipe de France. Damien Penaud, l'ailier qui vient marquer son 13e essai en bleu, et surtout Denis, mettre un coup sur la tête des Blacks. Jaminet, 40 points. Victoire historique de l'équipe de France. Jamais l'équipe de France n'avait battu la Nouvelle-Zélande par plus de 15 points d'écart. L'essai, Romain Tabac.
Quelle action
des Français. Macalou qui relève pour Jalibert. Jalibert qui a failli passer. Qui a fait croquer, qui relève pour Movaca. Movaca. C'est terminé. Victoire de l'équipe de France pour ce premier match de la tournée d'automne 2021. 29 à 20. Grâce notamment à deux essais de Flamand et Movaca. Et tous les points au pied pour l'arrière de Perpignan, Melvin Jaminet. Et bien Nicolas, voilà une bonne chose de faite dans cette entame de tournée.
Cette douce mélancolie.
Ah, Denis le chante à une certaine heure, ça un peu. Sa guitare sèche.
Même pas. Non.
Souvenir de France.
J'aimerais bien.
Souvenir de France Nouvelle-Zélande en 2021. Ça fait déjà un an, vous vous rendez compte. La tournée 2022, on y est. France-Australie à 21h au Stade de France. À vivre évidemment en direct sur RMC. Premier rendez-vous des Autumn Nation Series. Ça s'appelle comme ça maintenant. Avant la Coupe du Monde, en fait, il reste 3 matchs en novembre. Les 5 du tournoi. Il y en aura 4 de préparation au mois d'août. Ça va passer très vite évidemment. Et écoutez, à l'image du 3e ligne Anthony Jelonche, eh bien, les Français ont toujours les crocs.
On est marqué à vie par ce grand chelem. Mais je crois que maintenant qu'on y a goûté, on a envie de gagner encore, gagner des choses avec cette équipe de France, ce groupe. Parce que les moments qu'on peut vivre tous ensemble, là, c'est des moments uniques. Si on veut marquer cette génération à jamais, il faut gagner encore et encore avant cette Coupe du Monde qui arrive à grands pas maintenant.
Gagner encore et encore. Denis, qu'est-ce que tu attends de cette tournée? On rappelle au passage que les Bleus sont sur une série de 10 victoires de suite.
Mais on attend tous la confirmation de la qualité, de ce talent de cette équipe de France, avec je crois aujourd'hui une vraie maîtrise au niveau de l'appréhension de ces matchs de très haut niveau. Il se dégage un état d'esprit incroyable, donc ce qu'on attend, c'est d'être dans la continuité, voilà, de gagner évidemment, parce que je pense que c'est fondamental, il faut gagner. Même si on va affronter une des meilleures équipes du monde, il faut gagner, et pour ça, ben voilà, on attend une équipe de France qui soit au niveau, même si on va jouer plein de des joueurs qui normalement sont au top niveau et qui ne le sont pas aujourd'hui peut-être, mais que je pense à Romain Tamac ou Baye, des joueurs essentiels dans cette équipe de France.
De gagner beau aussi, parce que oui, mais beau, avec du jeu, ben c'est quoi l'identité de cette équipe?
Oui, mais justement, l'ADN aujourd'hui de cette équipe, c'est gagner et bien jouer. Donc quand il y a les deux, c'est bon, mais quand tu gagnes même en jouant mal, c'est bien aussi. Donc il ne faut pas être non plus trop... royaliste. Je crois qu'aujourd'hui, gagner contre l'Afrique du Sud, même si on y met l'intensité, même si on ne joue pas forcément avec de grandes envolées, c'est très bien aussi.
Pierre-Laurent, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? On est à un an avant l'échéance que tout le monde attend. Si on va un peu dans les détails, c'est pas facile de lui trouver des défauts à cette équipe de France.
Non, c'est pas facile de lui retrouver des défauts, notamment si on regarde la série automnale de l'an passé et le dernier tournoi de destination qui s'est conclu par un grand chelem. Il y a plein de questions, en plus de gagner, gagner face à l'Afrique du Sud, j'ai envie de dire, il y a plein de questions subsidiaires. C'est-à-dire que Denis l'a déjà dit, on attend aussi, donc a priori Cyril Bah, il va faire son retour, si ce n'est contre l'Australie, plus possiblement que face à l'Afrique du Sud. On a cette deuxième ligne, Paul Willemse aussi, qui relève de blessure. Cameron Wookie qui revient dans cette équipe de France après son transfert au Racing. Et cet attelage qui nous avait tant plu au printemps, en club, les deux restent sur des prestations moyennes. Il y a le retour de Charles Olivon qui, lui, pour le coup, en club, est très performant. Il y a pas mal de questions autour de ce paquet d'avant et avec en point d'orgue le défi face aux Springboks.
Ouais, mais on va en parler des individus. Mais je disais, est-ce qu'on lui cherche c'est pas facile de lui trouver des défauts. Est-ce que Nicolas, Pierre-Laurent, sur les ballons hauts, sur l'utilisation du jeu au pied, on a une paire de centres d'anti-Ficou. C'est vrai que pour l'utilisation du jeu au pied, c'est pas forcément ça vient pas forcément d'eux. Est-ce que ça peut être un problème à terme?
Peut-être travailler de nouvelles choses avec un 5-8e. Peut-être essayer d'amener de nouvelles choses.
Il nous semble
au jeu
pas que Danti qui va enlever Danti ou Ficou du poste.
Pourquoi vous les changez? Ça fonctionne très bien comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, Danti a prouvé que quand il est en forme, il tient le milieu de terrain et c'est ce qui fait avancer. Je crois qu'aujourd'hui, Fabien s'appuie sur une défense de fer avec un milieu de terrain qui fait des différences.
Peut-être pas changer, Denis, mais essayer d'avoir un plan d'évoluer, essayer de développer ce que tu as fait, d'ajouter. Un panel supplémentaire à ce que tu peux proposer en travaillant des choses sur cette tournée d'automne, parce qu'on se doute qu'à la Coupe du Monde, peut-être que les Bleus vont être un peu chatouillés sur certains matchs, qu'ils vont pas avoir une domination comme ils peuvent l'avoir depuis un an, et si c'est le cas, plan bêta. Donc cette tournée va peut-être servir à ça.
Oui, mais
aussi.
L'occupation du terrain, on voit l'occupation du terrain en général chez Fabien Galthié, elle n'est pas forcément avec un 5-8ème. Elle est avec l'arrière, le demi de mêlée.
On a un demi de mêlée qui a un jeu au pied de fou.
Il a un très bon jeu au pied, mais en tout cas, il l'utilise beaucoup aujourd'hui. Donc, pour moi, ça n'apporterait rien un 5-8ème. On n'a pas besoin dans le schéma tactique employé par Fabien Galthié.
Pierre-Laurent, tu voulais ajouter?
Et puis je crois que Fabien Galthié, il ne cherche pas de plan B. Au moins dans sa structure d'équipe, l'un des enseignements de cette première liste, Romain Tamac va jouer et il n'aura pas repris avec son club. Cyril Bah possiblement va jouer et aura que 35 minutes dans les pattes. On voit que Fabien Galthié est très conservateur dans sa. Il a trouvé la bonne formule, notamment dans sa composition d'équipe. Après, stratégiquement, c'est lui et ses adjoints en fait qui font, parce qu'il y a de l'intelligence de jeu sur le terrain et l'équipe est capable de s'adapter tactiquement en fonction des adversaires. On l'a vu et on risque de le voir face à l'Afrique du Sud qui va nous proposer un jeu qu'on n'a pas eu encore, on n'a pas été confronté face à ça, et notamment face à ce défi physique pour une des rares fois on va peut-être souffrir au niveau kilo par rapport et de la comparaison par rapport aux joueurs sud-africains. Donc ça fait partie de ces interrogations auxquelles les Bleus doivent répondre.
C'est vrai qu'on cherche des choses. On cherche des choses parce qu'on va peaufiner là, dans la dernière année. C'est vrai que Denis, si je te parle des ballons hauts, on n'a pas toujours été royal sous les ballons hauts, selon les joueurs évidemment, hein, mais c'est vraiment on chipote là, hein, Denis.
Mais on peut pas dire ballon haut, oui et non, parce que quand t'as Penaud, on peut pas dire que c'est quand même un expert dans les ballons hautes. Tu peux pas dire.
Jaminet a parfois été en difficulté. Là, il est blessé, mais oui, Ramos va être.
Ramos va être très attendu aussi. Il a un test à passer, Ramos, c'est certain. Hein, parce qu'après, dans le jeu à la main, il est très fort, très bon au pied. Donc, il va être bien présent. Après, c'est le jeu au pied, les ballons hauts sont des, comment dire, c'est un secteur de jeu où les Blacks ou les autres nations sont excellent. Nous, on sait que c'est pas notre défaut, mais il faut le travailler. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un secteur de jeu qu'il faut travailler.
Pour aller dans le sens de Wilfried, Denis, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, offensivement, très bon sur les ballons hauts, mais Jaminet et même
Damiano,
défensivement,
parfois,
on a pu être parfois en difficulté. Et c'est vrai que Ramos sera attendu là-dessus.
Alors, on se dirige vers un 15 de départ dont vous avez largement parlé la semaine dernière avec le retour dans cette équipe dite premium, hein, comme je disais, de Charles Olivon, l'ex-capitaine, puisque c'est officiel, hein, sans trop de suspense, c'est maintenant Antoine Dupont. Et en fait, depuis quelques semaines, moi, j'ai l'impression qu'on... c'est pas qu'on se réjouit pas de son retour, mais on est plus à se demander si Olivon peut retrouver la place qui était la sienne, Denis. Alors qu'il, dans le début du mandat Galtier, bon, il était capitaine, mais il a quand même une aura, une place quasiment indiscutable avant sa blessure.
Bon, il a la chance que François Cros soit blessé pour une longue période, donc il a moins la concurrence derrière lui, il me semble. Hein,
mais il y a plus de questions qu'il y en avait avant sur lui, quoi, en fait.
Après, il joue gros dans la mesure où on l'attend à un niveau de jeu qui était le sien il y a un an. Donc voilà, s'il est en équipe de France, c'est parce qu'il le mérite, mais parce que on attend de voir le Charles Olivon d'il y a un an. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui joue gros. Il va pas falloir qu'il soit en dessous de ses standards.
Pierre-Laurent, alors Denis disait, Cros est blessé. Avec Cros à 100%, avec Cros, Aldridge, Gelon chez Olivon, qui tu mets en titulaire, Pierre-Laurent, toi?
Oui, oui, bonne question. J'aurais envie de répondre.
Tu veux dire par rapport à l'adversaire?
Ouais, ça dépend par rapport à l'adversaire. Non, mais par rapport à la composition.
Gelon ou Olivon, quoi. Parce que Cros, c'est si un indiscutable, Aldridge
ouais,
aussi.
Ouais, ouais, non, mais ce que je voulais te répondre, Wilfried, c'est que nous deux, on est basé en province. Et a priori, ce qui remonte de Marcoussi, des premiers entraînements et des premiers enseignements que laisse filtrer Fabien Galtier lors des entraînements ouverts au public et à la presse, c'est qu'on va avoir énormément de troisième ligne sur la feuille de match. Il y aura les trois, il y aura Aldridge, Longe, Olivon qui sensiblement seront titulaires. Mais a priori, on pourrait retrouver en 6-2 avec Makalou et Tanga sur le banc, voire Thibaut Flamand qui, de temps en temps, dépanne aussi en tant que de troisième miel. Et là-dessus, en fait, et puis avec des joueurs qui peuvent jouer 8 ou troisième miel, tout ça. Pour eux, donc, c'est vrai qu'il y a une avalanche de troisième ligne dans cette équipe. C'est vrai que la question, par contre, est ultra pertinente parce que Charles Olivon revient très fort. Mais j'ai envie de dire, comme Fabien Galtier est conservateur, je pense que Cros, même s'il revient de blessure, quand il rentrera à 100% ou même à 80-90%, reprendra au moins pour le début sa place de titulaire.
C'est pas sûr, hein. Moi je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense que si Olivon revient à un niveau qui était le sien.
Bah, c'est pas les mêmes profils, Denis, en fait.
Olivon, il saute, hein, les gars. Hein. N'oubliez pas ça. Alors, c'est un vrai
sauteur. T'as Woki en deuxième ligne. T'as Woki en deuxième ligne qui saute et qui te contre des ballons.
C'est bien d'avoir deux sauteurs aussi. Te trompe pas. Si Olivon réalise des grosses performances, ça va être dur de l'enlever. Je te le dis. En plus, il est libéré de son capitana. Ça peut jouer aussi, donc attendons de voir les performances d'Olivon.
Denis, si t'as pas Cros, qui va gratter les ballons? Parce que pour Marchand, le coup, Gelon, Aldridge peuvent le faire, mais beaucoup moins que Cros.
Marchand, Aldridge,
il peut être précieux.
Là, vous êtes sur l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect leadership. Ce que va apporter Charles Olivon, et on voit ce qu'il apporte d'ailleurs à Toulon depuis qu'il est revenu à 100% de ses capacités, c'est assez énorme. Alors même s'il a plus le statut de capitaine, c'est quelqu'un qui va peser sur les arbitres, c'est quelqu'un qui pèse sur ses coéquipiers, qui emmène tout le monde vers le haut. C'est le premier capitaine de l'ère Galtier et de cette génération qui gagne. Et je pense que ça, mine de rien, c'est très important
c'est pour ça que je répète, en an de la Coupe du Monde, il joue très gros. C'est peut-être il joue encore plus gros qu'un Ramos, qui est plus polyvalent et qu'on sait très bien qu'il sera dans le groupe à la fin. Pour moi, Charles Olivon joue très gros, personnellement.
Après, Nicolas, il y a aussi un équilibre dans l'équipe, et Wilfried pourrait mieux en parler que moi parce qu'il suit le Stade Toulousain au quotidien. Et ce qui était vrai en début 2020, quand Fabien Galtier prend les rênes de l'équipe de France et nomme Charles Olivon capitaine, maintenant avec Fabien Dupont, tu as l'influence toulousaine avec énormément de co-leaders ou de lieutenants qui sont très toulousains. Les autres sont d'anciens Toulousains. Donc, Charles Olivon va revenir d'abord comme simple soldat.
Et comment la quid du retour de Cros?
Oui. On verra pour le tournoi, ça c'est une deuxième.
Oui, non, mais même. Ouais.
Non, mais c'est un incontournable, Cros.
Oui, mais sa forme, il va revenir de blessure. Il a enchaîné deux grosses blessures. C'est jamais évident au niveau.
En tout cas, selon le staff, écoutez, zéro souci. Le collectif en priorité. Écoutez le co-entraîneur de la conquête, William Servat.
On a la chance d'avoir un groupe de leaders ici qui est assez extraordinaire. Charles, quand il a été capitaine sur ce premier tournoi, est quelqu'un qui n'a jamais ni pensé à lui, ni parlé de lui. Mais il a toujours revendiqué des choses pour le groupe, il a toujours revendiqué des choses pour l'équipe. Il a toujours avancé avec le projet de l'équipe en tête. Et aujourd'hui, je pense qu'il est simplement dans la même ligne droite, avec la même importance au sein de notre groupe. Et je pense qu'il n'y a aucun souci, bien au contraire. On a la chance de ne pas avoir trop de questions à se poser sur ces rôles-là.
Est-ce que, Denis, est-ce que tu penses que c'est aussi limpide, les égos de côté, la patrie en étendard là, ça coincera pas l'approche de l'événement d'une carrière, on va dire, hein, qui est la Coupe du Monde en France?
Bah, en tout cas, au niveau de la communication, ils sont très forts parce qu'ils ont enlevé le capitana et oui. Ils disent que c'est incontournable, c'est le meilleur. Donc, c'est vrai que c'est un peu fort du, comment on dit, du café, non?
Fort de café.
Mais.
C'est passé.
Moi, je pense que aujourd'hui tout est clair. Tout est clair entre Olivon, entre Dupont. Et que, sincèrement, je pense que Olivon, ça lui arrange bien. Ça lui arrange de ne pas avoir le capitana. Parce que là, il est libre. Il doit prouver ce qu'il est. Il n'est pas
redevenu incontournable. Donc, il faut d'abord qu'il s'attache à ça.
Évidemment. En fait, donc, c'est pour ça que je pense. Pour moi, ça l'a soulagé de ne pas être capitaine. Parce que ça aurait été à double tranchant pour lui. Là, il va revenir. Il faut qu'il prouve sa valeur qui était la sienne et ça va le faire, je pense que ça va le faire.
Alors ailleurs en troisième,
puisqu'on parle de com, je voulais préciser que puisqu'on parle de com, dans le communiqué qui annonçait Antoine Dupont capitaine, c'était bien précisé juste pour l'automne, juste pour ces trois matchs. Fabien Galthié se laisse la porte ouverte.
Et puis les gars, n'oubliez pas une chose, c'est quand même plus facile d'écarter un joueur qui n'est plus capitaine, comme peut l'être Charles Olivon, qu'un Charles Olivon qui peut avoir le brassard. Donc là, tu te laisses aussi la possibilité, si ça se passe mal avec Olivon, de lui dire bon bah Charles, on te rend en club.
Et imaginez que ça se passe bien, que cette tournée se passe bien avec Dupont capitaine. Pourquoi on changerait? Il n'y aurait qu'une raison. Donc, ça va être fonction aussi des matchs, des performances des uns et des autres. Mais si la tournée est réussie.
Il y a eu des changements comme ça.
On va aller jusqu'à la Coupe du Monde.
Je me rappelle Ibanez, Pelouse, voilà. Denis. Il y a eu Nallet, du Sautoir. C'est déjà arrivé.
Mais aujourd'hui, tu ne peux pas dédouaner Dupont qui est l'homme.
Ah non, on est d'accord. Mais tout le monde est d'accord, je pense. Donc mais même peut-être Charles Olivon aussi.
Mais je crois aussi. Mais je pense que ça le soulage aussi.
Alors, ailleurs qu'en troisième ligne, Moefana et Ramos peuvent-ils s'imposer? À l'arrière, pourquoi pas, puisque c'est le poste où il y a eu le plus de rotation, messieurs. On a eu Boutier, on a eu Dulin, on a eu Jaminet. Ramos peut-il s'imposer au sprint et être l'arrière de l'équipe de France, Denis?
C'est difficile à dire. Après, si Jaminet revient, je vais dire la même chose que j'ai dit pour Olivon. Si Ramos fait des performances XXL contre les Sudaf, contre les Australiens et contre le Japon, comment tu vas le sortir?
Les absents toujours tort en équipe de France.
Et oui, et puis il retourne vite. Puis si les buteurs qui enquillent tout, parce que c'est un gros buteur, Ramos, qui fait des. On anticipe, mais en même temps, c'est un joueur moi, que j'adore. Donc. J'aimerais tellement que ce joueur arrive à s'imposer un jour.
Mais est-ce que sa polyvalence ne fait pas qu'il est condamné à démarrer sur le banc, ce joueur-là? Parce que tu sais que sur le banc, il est capable de matcher en 10, 15, qui va buter derrière Jaminet. Il a cette polyvalence qui fait que tu le mets sur le banc de touche. Avec Ramos, tu couvres 2 ou 3 postes. Galthié, il adore.
C'est le malheur de ces joueurs qui sont trop doués, qui peuvent jouer partout et qui sont bons partout. Et c'est vrai que c'est en même temps rare. T'en as pas beaucoup des joueurs comme ça. Et lui, c'est un des rares qui excelle dans tous les postes dans lesquels il joue. Forcément qu'à un moment donné la question se pose.
Pierre-Laurent, avant de te donner la parole, écoutez, tu disais c'est un joueur rare, écoutez, c'est assez significatif, alors c'est un coéquipier, peut-être un ami. Comment Mathis Lebel parle de son coéquipier Thomas Ramos?
Il a re-signé au club parce que je pense que déjà il est très attaché au rugby et au Stade Toulousain, au jeu que propose le Stade Toulousain. Après, il s'est pas dégonflé non plus. Quand tu fais signer quand même de très bons joueurs à son poste, il s'est pas dégonflé et il a travaillé dur, je pense, pour faire un début de saison le plus complet possible. Et il a montré sur tous les matchs qu'il a joué depuis le début de la saison, je pense qu'il est jamais passé à côté. Donc c'est vraiment très très bien pour lui. Je pense qu'il se le gagne et que c'est un bosseur. Après, c'est un mec qui aime le rugby, qui s'intéresse vraiment au rugby, à comment faire jouer une équipe, à ce qu'il peut améliorer, ce qu'il peut apporter à l'équipe. Donc je dirais que c'est un amoureux du rugby. Quoi.
C'est vrai qu'il est très rugby.
Il pue le rugby.
C'est ça, c'est un peu monsieur rugby.
Moi j'emploie cette expression avec lui, je lui délie de sale gueule. Parce que parfois, c'est pas un joueur qui, il dégage pas une beauté esthétique du... Mais il est d'une efficacité.
Il s'accroche.
C'est pas ça, c'est pas un reproche, c'est pas une critique. Je dis juste qu'il est d'une efficacité. Et paradoxalement, il est d'une efficacité incroyable. Il fait des choses que personne ne fait souvent. Je vois lui, il a des trucs, des attitudes, des gestes que tu vois nulle part ailleurs. Et voilà, donc lui aussi joue gros. Il joue très gros pour sa carrière et pour la Coupe du Monde.
Pierre-Laurent, si tu devais comparer Ramos et Jaminet, voilà, on perd un peu de longueur dans le jeu au pied, peut-être, mais... Alors je sais pas s'il osera autant, il osera autant qu'il ose au Stade Toulousain, mais faut pas laisser 3 cm à Ramos sur ou un moment d'inattention quoi sur le terrain.
Moi, ce qui me marque entre Ramos et Jaminet, c'est le côté ultra compétiteur de Ramos que je découvre ces derniers mois. L'arrivée de Jaminet au sein de son club aurait pu le déstabiliser. Bien au contraire, il a haussé encore son niveau de jeu qui était déjà assez impressionnant. Il fait partie de cette trempe. Il me fait penser à Morgan Parra quand il était jeune. Et je rebondis sur ce que disait Denis tout à l'heure. Et je pense à Morgan Parra, ce qui est arrivé en 2011. Voilà, il se fait piquer sa place de demi de mêlée par Dimitri Yachvili et il profite de sa polyvalence pour piquer la place de François Trinduc à l'ouverture alors qu'il dépannait juste à l'ouverture.
Il joue en 10,
voilà. On perd, oui, tu as raison, peut-être un peu de longueur dans le jeu au pied, mais il a une telle précision, c'est alors les stats le démontrent pas parce que peut-être qu'il bute plus que Jaminet, mais pour moi il est encore plus précis que Jaminet.
On va finir juste avec ce tour des ceux qui peuvent avoir leur chance. Denis Hallel, est-ce qu'on aura du mal à voir Yoram Moefana doubler Gabin Villière? Parce que c'est pas un ailier à la base, Yoram Moefana. Mais bon, sait-on jamais, parce que lui aussi est senior, Yoram Moefana.
Après, on parle d'un joueur, Gabin Villière, si on fait un parallèle avec Ross, c'est un joueur qui s'est blessé deux fois, coup sur coup.
Oui. Il était réopéré,
ce ne sont pas des blessures tu vois, neutres. C'est toujours la même question, comment ils reviennent. Et un joueur comme Gabin Villière, il a tellement besoin de tout. C'est-à-dire que c'est un mec qui a une explosivité, qui faut qu'il soit à 1000% de ses moyens. Et là, il devient redoutable et il est incontournable. Et pour moi, il est titulaire. Le problème, la grande question, c'est comment il va revenir de sa blessure. Et après, Moefana, après, on parle de la même chose. Si lui fait des performances lors de ces matchs-là, il va mettre le doute dans la tête de Fabien Galthié. C'est le principe du sport de haut niveau. Voilà. Il faut être là au bon moment. C'est. Voilà. Donc il y a toutes ces questions qui restent en suspens.
Ouais. On aura peut-être besoin de Moefana au centre. Nico, tu le vois à Bordeaux, tu vois ses qualités. Ce ne sont pas les mêmes que Danti et Ficou. C'est vrai qu'il peut apporter une alternative.
Je l'adore. J'adore ce joueur. J'adore ce joueur parce que déjà, c'est un énorme défenseur. Pas forcément ultra présent sur le jeu au sol par rapport à un Danti. Mais il est quand même bon dans les zones de rush. Par contre, il a faim.
En 1 contre 1.
Il aime la viande. En 1 contre 1, il perd pas un duel. Quand il porte le ballon, il avance. C'est un gars qui est capable de jouer 11, 12, 13, 14. Alors oui, il joue peu à l'aile, mais quand il est à l'UBB et que Christophe Eus le fait glisser à l'aile parce qu'il a des besoins, tu vois pas de baisse de niveau. Quand il joue premier centre, il est capable de mettre de l'impact. Quand il joue 13, il est capable de changer son jeu pour amener un petit peu plus de course, de prise d'intervalle, de volume de course. Moi, franchement, c'est un joueur que j'adore. Je crois que c'est un joueur qui a toujours été fiable, qui a toujours donné satisfaction et qui a toujours su hausser son niveau. Et encore une fois, quand on parle de polyvalence, dans l'esprit de Fabien Galthié, c'est super important. Par contre, il y a un gars qui est en train de vraiment de perdre des points là dans cette course à une place pour la Coupe du Monde à l'aile, c'était dit Thomas, qui fait début de saison moyen avec La Rochelle. Et lui, quand on voit justement des joueurs comme Moefana qui sont en train d'exploser, ça va être compliqué.
Oui, puis en plus c'est un centre, Moefana, qui prend sa place à l'aile, quoi. Donc c'est vrai que pour Teddy Thomas là, il reste encore une chance, mais ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Il va falloir qu'il fasse des matchs XXL à...
Mais lui-même, il le dit, Denis. Il dit là actuellement, j'ai pas le niveau pour être en équipe de France.
Pour reparler de Moefana, ce qui me bluffe chez ce joueur-là, c'est qu'il perd jamais un ballon. Jamais un ballon. Il est toujours dans l'avancée.
Voilà, il est surveillé comme le lait sur le feu.
Il est d'une efficacité, il est très propre. C'est monsieur propre, en fait, ce joueur-là, qui soit au centre ou à l'aile. Aujourd'hui, il va être titulaire. C'est vraiment logique.
Parlons de ce premier match, messieurs. On retrouve l'Australie qu'on a affronté à l'été 2021. 3 tests là-bas pour une victoire et 2 défaites. Rappelez-vous, une défaite cadeau avec une dernière action où Iri Barren et Jaminet s'étaient emmêlés les pinceaux. Où en est l'Australie? Je disais grande nation du rugby, mais quand on évoque l'Australie, on est un peu dubitatif. Avec quel joueur, Nico, est-ce que tu peux nous parler de leur forme actuelle?
Alors, ils ont battu l'Écosse ce week-end, hein, d'un petit point, 16 à 15 en Écosse. Alors, tu peux voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Oui, ils ont battu l'Écosse, mais ils ont failli perdre parce que les Écossais ont une pénalité dans les toutes dernières secondes qui peuvent leur offrir la victoire. Mmh. Et finalement, il manque le coup de pied. C'était un match extrêmement serré. C'est vrai qu'ils galèrent quand même depuis quelques mois, les Wallabies. Seulement 9e actuellement au classement mondial, juste devant le Japon. C'est derrière l'Écosse, derrière le Pays de Galles, derrière l'Argentine. Et puis, ils ont pris de sacrés roustes cet été lors du Rugby Championship. Notamment une défaite 48-17 en Argentine. Je vous lis la presse australienne, hein, mais un naufrage. Les journalistes ont dit qu'après ce match, les Wallabies ne peuvent pas demander avec sérieux à leurs supporters de les considérer comme des prétendants, au trophée Webb Ellis. Donc les mots sont forts. Le sélectionneur est contesté. Il termine 3e de ce Rugby Championship avec seulement 2 victoires.
Ils ont battu les Blacks, il me semble, non ?
Non, ils ont failli battre les Blacks. Ils perdent 37-39, tu te souviens, un match de fou, avec une décision arbitrale de Monsieur Reynal qui a fait vraiment jaser. Oui. Mais globalement, ils sont dans le dur. Et puis au niveau des joueurs, c'est jeune, au poste clé, il n'y a pas de véritable star. Le capitaine historique, Michael Hooper, 31 ans, il s'était mis en retrait cet été pour des soucis personnels. Il a fait un burn-out. Il est là pour cette tournée d'automne, mais après, dans quel état ?
Lui,
c'est un symbole, mais dans quel état tu vas le récupérer ? Il n'a pas récupéré son bras. Et puis tu as Skelton aussi, Denis, qui est présent. Mais Skelton, ça fait quelques temps qu'il est assez loin quand même de la sélection australienne. Donc voilà, on ne sait pas trop comment juger ces Wallabies.
Ben, on ne sait pas trop comment les juger, mais en même temps, c'est une équipe qui arrive en fin de saison. Donc on peut penser qu'ils manqueront de fraîcheur sur la distance, on va dire. Sur la durée de. Mais méfions-nous quand même. C'est vrai qu'il y a de beaux joueurs, notamment le capitaine qui revient, qui quand même. Un vrai fer de lance, un vrai symbole pour cette équipe australienne.
Pierre-Laurent, est-ce que c'est un gros morceau l'Australie ou pas ? Ou on avait commencé par l'Argentine l'année dernière, est-ce que c'est à peu près du même niveau ? Attention à leur possession longue dans le culturellement, historiquement, comme ils aiment le faire, mais qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, comme tu l'as dit, après, ça reste un gros morceau, mais c'est quand même aussi une équipe un peu à la croisée des chemins, avec des joueurs un peu en fin de cycle, même si certains comme Hooper reviennent bien à un bon niveau, ou le pied gauche Slipper, qui, rappelez-vous, il était là, il était de la défaite historique au Stade de France, enfin la défaite historique pour nous, du temps de Marc Lièvremont.
Oui.
Il y a Nick White qu'on connaît bien, qu'on a eu dans le top 14, qui est encore dans le groupe ce week-end.
Il
y a des jeunes, par contre, qu'on connaît moins bien, mais c'est une équipe quand même moins dominante, on le voit dans le Sud, elle est clairement dépassée par l'Afrique du Sud ces dernières années, et ça reste une équipe de haut niveau, du tiers 1, comme dit World Rugby, mais je pense que maintenant, vu nos états de service, on peut clairement assumer le statut de favori.
Mais juste sur le match cet été, on a vu une mêlée australienne chahutée de tout le temps.
Ouais, ça n'a jamais été aussi leur.
Donc c'est un secteur où on devrait leur faire mal et on devrait prendre l'ascendant, ce qui est important.
Faudra se méfier des Paysami, des Toupou. Et on disait parler de gros morceaux. Nico, de Will Skelton, alors que tu as eu la chance de rencontrer.
Exactement. Alors bon, déjà, j'ai dû monter sur un escabeau pour l'équiper du micro, hein, Will Skelton. Il a 30 ans. L'an dernier, il a retrouvé la sélection australienne, novembre 2021, alors qu'il ne l'avait plus fréquenté depuis 5 ans. Les critères de sélection se sont assouplis en Australie. Ils sont deux pour cette tournée d'automne à jouer à l'étranger. Skelton et l'ouvreur Bernard Follet qui joue au Japon. Écoutez comment Skelton a vécu son retour en sélection.
It was awesome. Personally, I thought,
ça a été vraiment incroyable. J'ai retrouvé un environnement totalement différent de ce que j'avais connu avant avec les Wallabies. C'est rafraîchissant. Le coaching de Dave, il y a de jeunes joueurs, il y a aussi une nouvelle façon de jouer au rugby.
That I love to play, so I know it was a good experience.
Et ça a vraiment été une bonne expérience. Alors, il n'a pas participé au Rugby Championship cet été. C'est un choix du sélectionneur de le faire souffler après sa longue saison. On l'a dit tout à l'heure, mais l'Australie a des choses à prouver. On a demandé à Will Skelton quelles sont vraiment les forces de ces Wallabies.
I think we have a great bunch of young boys.
Je pense qu'on a vraiment un joli paquet de jeunes joueurs extrêmement talentueux. Lenny Kitao, Hunter Paisami, Taniela Tupou. On n'a pas de bons résultats sur les derniers mois, ça c'est vrai. Mais je suis sûr qu'on sera prêt pour la Coupe du Monde. Ce qui est sûr, c'est que Skelton attend ce match contre la France avec impatience. Il a pris une nouvelle envergure à La Rochelle. C'est un leader majeur des champions d'Europe en titre. Il a prolongé jusqu'en 2025 avec les Rochelais. Et il admet lui-même que jouer en top 14, ça a fait progresser son jeu. Écoutez Skelton quand on lui parle de ses retrouvailles avec les Bleus.
Threats everywhere, you know. Dupont, player of the year, Aldrit.
Dupont, c'est le meilleur joueur de l'année. Greg Aldrit, il fait peur à tout le monde. Pour nous, jouer la France, ça veut dire être prêt à chaque poste sur le terrain. Franchement, c'est difficile. C'est vraiment difficile de dire comment ils jouent, comment les battre, parce que ils sont menaçants partout. Penaud sur une aile, Moefana sur une autre aile. Joe Danty, c'est un destructeur. Ils ont des joueurs très dangereux dans leur pack et on devra jouer à notre meilleur niveau pour les battre. Ce qui est sûr, c'est que ce sera assurément un des guides de l'Australie à la Coupe du Monde. Et on parlait de son association avec Michael Hooper. Voilà, c'est peut-être ces deux joueurs-là qui, en termes de leadership, vont apporter vraiment à l'Australie sur cette tournée d'automne.
Oui, Denis, il ne faut pas tomber dans le piège du sourire de Will Skelton. Il me fait penser à. Bon, c'est pas les mêmes, à Bakis Bota, quand il sourit tout le temps, il branche tout le temps les mecs.
Non, mais c'est la bonne pioche quand tu le vois jouer avec La Rochelle. Il a une telle puissance, il emporte tout le monde sur son passage. Il va forcément jouer contre la France. Je ne vois pas comment il le mettra pas titulaire samedi. Il va rassurer, il va apporter un supplément de confiance, c'est certain, et peut-être une meilleure assise en mêlée, fermée, ce que je crois. Donc oui, c'est un plus dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. Voilà. Et puis l'entraîneur australien est assez intelligent pour l'avoir compris. Voilà, donc, à force méfier, ce joueur est assez redoutable.
Ouais, Pierre-Laurent, un joueur peut changer quelque chose ?
Oh oui, tout à fait. Skelton avait relancé en 2014 quand elle était arrivée les Wallabies, qui étaient déjà moribonds. Et puis nous, il connaît bien nos joueurs. Tu l'as dit.
Il peut rentrer dans nos têtes, dans nos cerveaux. C'est ça ?
Oui, tout à fait. J'adore la comparaison que tu as faite avec Bakis Bota. Et il a un peu cet impact. Et il est plus jeune que quand on a connu Bakis Bota dans le top 14. Il se déplace. Moi, ce qui m'impressionne, c'est sa capacité de déplacement compte tenu de son poids, quoi. Il court quand même beaucoup, hein, pour un joueur de son tonnage, il court quand même beaucoup et il est vraiment impressionnant.
Ouais, mais c'est dingue ça, hein, les mecs qui ont tout le temps le sourire, qui arrivent à jouer comme ça en souriant à l'adversaire, il fait pas le bisou de Bakis
Bota. Quand tu pèses 140 kilos, c'est plus facile
tu
de sourire.
Tu peux être insolent.
Ouais, tu vas pas aller chercher les noises.
Quand t'es un pinch comme toi. Hein.
Tu peux être insolent, c'est ça. Merci pour le merci pour le pins.
Un pins, c'est très beau le pins.
Non mais c'est un gigote. Non mais moi je l'aurais. Il y a plus, il te sourit, t'as encore plus peur. Ah ouais. Mec, il te fait pas une grimace, il sourit.
J'essaie de te le faire. Il est trop
calme. Il a confiance.
Ah ouais, il est beaucoup trop calme, ce qu'elle
sait. J'essaie de te le faire le sourire. Tu vas voir le pins. Sympa, ouais. Denis, juste pour finir avec ça, 10 victoires de suite, ça serait historique, une 11e victoire, c'est jamais arrivé. Est-ce qu'il faut pour aller chercher toutes les choses comme ça, tous les détails, est-ce que c'est important?
Je pense que Fabien est assez intelligent pour faire la part des choses. On ne part pas sur un match international en disant à leurs joueurs il faut absolument gagner. Non, d'abord il faut construire, il va s'appuyer sur ce qu'il fait de mieux, la défense, être agressif sur l'homme, puis après une belle occupation au pied, et après on sait très bien qu'en second temps on est redoutable. Donc gardons notre esprit, notre jeu, notre fond de jeu, et puis ça devrait passer face à une équipe australienne qui sûrement va manquer de fraîcheur dans les 10 dernières minutes.
Non, on commence les paris, la France de plus, combien?
Non, la France,
tu vas mettre quoi?
Je pense entre au-delà de 7 points d'écart, oui, peut-être
plus
entre
15. 7,
entre 8 et 15, oui.
Ouais. Attention, parce que l'Australie a joué un premier match le week-end dernier, nous c'est notre premier, peut-être que voilà.
Oui, mais je te dis, ça a pesé dans les organismes des Australiens quand même, entre le voyage, le premier match.
Oui, mais ils ont déjà commencé à lancer la machine, nous c'est le premier match,
mais
donc
la saison se finit pour eux, c'est très long, c'est usant, tu vois, nous on est sur place, non, je pense que la fraîcheur sera différente du côté français.
Compo donné par Fabien Galthié, jeudi à midi, France-Australie, c'est samedi à 21h. Évidemment, on sera aussi tous devant notre écran samedi matin. On rappelle que le 15 de France féminin, après sa victoire 39-3 en quart de finale de la Coupe du Monde, va affronter la Nouvelle-Zélande en demi-finale. La nation hôte qui, elle, a battu le Pays de Galles.
Pour un exploit, hein, parce que ça va être compliqué.
Oui, à l'Eden Park en plus,
c'est sûr. À guichet fermé.
Ça va être dur. De l'autre côté, ce sera Angleterre, Canada. Donc 7h30 les filles et le soir 21h, ça fait une amplitude. Denis, on va être fatigué. merci, messieurs.
Et au milieu, il y a le top 14.
Ah ouais, au milieu, il y a le top 14. C'est vrai. On va voir les yeux, Et les oreilles, tout. Là. Le pin, il va être mal. Elle est pas, hein, je la garde celle-ci de côté, Denis, tu vas voir.
Elle t'a plu, celle-là.
Elle t'a plu, ouais. Merci, Denis. Merci, Nico.
Bye bye.
Merci Pierre-Laurent. Évidemment, on se retrouve dès la semaine prochaine pour faire le bilan de ce match et se projeter sur l'Afrique du Sud. Ce sera à Marseille. Merci à Pierre Amiche et à Daniel Torres pour la réalisation de cette émission. On vous souhaite une bonne semaine. On se dit allez les Bleus. On se dit à samedi. On se retrouve lundi prochain. Et normalement, il y aura le retour du grand, du vieux, de Christophe Cessieux. Allez, bonne semaine à tous. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.